Vous écoutez
RMC.
Dans moins de 60 secondes sur RMC, face à face.
Apolline de Malherbe reçoit Marion Maréchal.
Pour être à l'heure, il ne faut pas être en retard. Ce qui est interdit n'est pas autorisé. Il y avait beaucoup moins d'emails quand Internet n'existait pas. Avec le 85, on paye son carburant deux fois moins cher pour ne pas le payer deux fois plus cher.
Certaines choses sont évidentes. Avec Ford, faites des économies à chaque passage à la pompe en choisissant le Ford Kuga Hybrid 85, le SUV élégant et ultra connecté. Ford. Comparez le prix des carburants sur prix-carburant.gouv.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Ça marche bien ta boutique en ligne pour les fêtes ?
Bah tellement bien que je cours partout pour livrer mes colis à temps.
Passe par Colissimo Facilité. Tu imprimes chez toi les étiquettes d'affranchissement et si tu le souhaites, la poste peut même passer récupérer tes colis. C'est très facile.
Découvrez Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne de La Poste dédiée aux professionnels pour faciliter l'envoi et le suivi des colis. Et jusqu'au 31 décembre, profitez de moins 10% sur vos envois pendant 6 mois. Renseignements au 3634 ou à La Poste.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Marion Maréchal. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes la vice-présidente du parti Reconquête. C'est d'ailleurs ce week-end les 1 an de ce parti. Le parti Reconquête qui a été créé par Éric Zemmour. Vous tiendrez dimanche un grand meeting au Palais des Sports à Paris. On y reviendra dans un instant. Mais d'abord, une question, il y en a plusieurs à évoquer avec vous, mais un chiffre en fait, le record du nombre de prisonniers qui a été battu en France. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de personnes emprisonnées dans les prisons de France. 72 809 prisonniers. Est-ce que c'est bon ou mauvais signe ?
C'est mauvais signe, puisque c'est la preuve qu'il y a non seulement une explosion de l'indélinquance et de l'insécurité, mais que de surcroît, nous sommes toujours face à une carence manifeste de places de prison et que malgré les promesses depuis des années, rien n'a été fait de manière structurelle et significative de ce point de vue-là. Et qu'en parallèle, c'est le fait qu'il puisse y avoir des personnes qui, in fine, arrivent en prison après avoir, la plupart du temps d'ailleurs, été condamnées à de multiples reprises à du sursis, on sait que, à travers notre code de procédure pénale, nous allons pour la plupart de ces délinquants assister à leur remise en liberté, alors même que la plupart du temps ils n'iront jamais au bout de leur peine. Donc c'est dire qu'en fait on est dans une forme de gestion de la pénurie, mais une pénurie qui est en fait écrasée par un poids de délinquance tel que on se retrouve malgré tout dans cette situation en dépit de toutes les mesures qui sont faites
pour trouver une solution alternative. Mais si je vous pose la question comme ça, Marion Maréchal, bonne ou mauvaise nouvelle ? Évidemment, c'est toujours une mauvaise nouvelle quand on a des prisonniers. Mais dans un sens, chez quelqu'un qui, comme vous, n'arrêtait pas de fustiger le laxisme de la justice, au fond, vous devriez vous réjouir dans un sens que la justice soit suffisamment ferme pour envoyer et que les gens aillent véritablement.
J'ai pas la même lecture que vous. C'est-à-dire que vous vous dites, s'il y a plus de prisonniers, ça veut dire qu'il y a plus de fermeté. Moi, je ne crois pas qu'il y ait eu une inflexion quelconque sur le plan de la politique pénale et des décisions judiciaires. Je crois que c'est simplement le nombre de personnes qui sont aujourd'hui déférées devant la justice qui augmente. Et donc, de ce fait-là, mécaniquement, il y a une augmentation des peines de prison qui sont prononcées. Mais je ne vois pas ce qui aujourd'hui, une fois de plus, sur le plan de la politique pénale est véritablement changé, ne serait-ce que parce que j'y reviens. On a aujourd'hui un code pénal qui est un code ferme en réalité, avec des sanctions importantes, dures la plupart du temps, qui sont d'ailleurs régulièrement durcies par le législateur au cours souvent d'ailleurs des actualités sordides. Mais néanmoins, nous avons en parallèle un code de procédure pénale qui s'affaire à détricoter mécaniquement toute la dureté de ce code pénal.
Il y a un décalage entre la fermeté affichée
et l'application réelle, alors pour différentes raisons, liées une fois de plus à cette question de procédure et au juge d'application des peines, d'ailleurs la plupart du temps, qui détricote une fois de plus ce qui est décidé par le juge en amont. Et puis il y a aussi un manque de moyens, on le voit, les places de prison manquantes, donc la gestion de la pénurie, donc la recherche d'alternatives significatives à la prison, à la prison, et les fameuses peines hors les murs. Et puis au-delà de ça,
Il y a un problème de juge aujourd'hui en France ?
Un problème de juge. En tout cas, il y a un problème chez certains d'idéologie. Oui, je le pense. Je pense que certains continuent de communier à cette idée que finalement, la prison serait l'école du crime, que la délinquance est d'abord mue par un certain nombre de problèmes sociaux et donc la pauvreté serait une forme d'excuse, ou en tout cas les difficultés sociales une forme d'excuse à la délinquance. Ça n'est pas systématique, mais en tout cas, ça se reflète parfois dans les décisions de justice.
La pauvreté qui pourrait se retrouver aussi pénalement répréhensible sur la question des squats. Ça, c'est une des lois qui va être examinée aujourd'hui. Une loi qui se dit anti-squat, mais qui va mêler à la fois les squats, la question des squats dans les domiciles privés, mais aussi les loyers impayés. Et désormais, pour des loyers impayés, vous serez considéré comme sous le même régime que les voleurs et vous pourrez aller en prison en plus de vouloir rendre plus efficaces les expulsions. Est-ce que vous vous dites, tiens, oui, c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut envoyer en prison ceux qui n'ont pas payé leur loyer?
Alors, je ne suis pas sûre que la peine de prison soit forcément la peine adéquate. En tout cas, ça dépend des motivations, ça dépend de la durée, ça dépend de l'attitude, en effet, de ce squatteur ou de cette personne qui ne paye pas
ses loyers.
Ce qui est sûr, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester dans la loi actuelle. Nous avons trop de propriétaires qui se retrouvent mis en difficulté financière du fait de personnes qui ne payent pas leur loyer. Alors, parfois de bonne foi, mais aussi parfois de mauvaise foi, ça arrive, et qui sont surprotégés par la loi, avec comme conséquence directe le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Français n'arrivent plus à avoir accès à un logement en location parce que les propriétaires préfèrent ne plus louer que de prendre le risque d'une location et donc de se retrouver parfois mis à la rue parce qu'ils n'ont plus les moyens finalement de pouvoir assumer financièrement ce bien qui ne leur rapporte plus.
Avec cette question, Marion Maréchal, comment faire pour aider ceux qui travaillent et qui ont parfois de plus en plus de mal à s'en sortir? Et une division parfois, ou en tout cas un ressenti vis-à-vis de ceux qui travaillent moins et qui touchent des aides. Gabriel Attal, le ministre du Budget, le disait ce week-end, il faut aider les Français qui bossent en priorité. Écoutez.
Moi, ce que je veux dire en tant que ministre du Budget, c'est que oui, on concentre davantage nos aides, notre accompagnement sur ces Français qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin et qui, encore une fois, ont des difficultés pour boucler leur fin de mois.
Là-dessus, vous seriez plutôt d'accord? Bah en fait, moi, je crois, oui, je suis d'accord sur le principe, mais c'est pas ce que je constate factuellement dans la politique du gouvernement. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui au taux record de prélèvement obligatoire, le plus haut taux depuis 30 ans. Donc, ce que nous constatons aujourd'hui dans le budget qui est voté, c'est que nous n'avons pas significativement de baisse d'impôts, en particulier sur les personnes qui travaillent, mais nous avons davantage une distribution frénétique de chèques dans l'urgence qui ne s'accompagne pas en parallèle d'une réforme de l'État et donc d'économie. Et donc, en fait, nous avons aujourd'hui un système qui fait que l'État social coûte à peu près 700 milliards par de budget, ce qui est absolument considérable, hein, qui grève d'ailleurs en parallèle et l'État régalien et le fameux État stratège, et donc qui mécaniquement eh bien, est porté sur les personnes qui travaillent dans ce pays et qui se retrouvent spoliées du revenu de leur travail pour pouvoir porter à bout de bras ces aides. Donc en fait, il y a un paradigme à changer, une logique complète différente à avoir.
La question de la solidarité, vous dites pas c'est un... Enfin, même bien sûr. Si je reprends votre vocabulaire, c'est la question de la patrie, de la nation, faire corps ensemble, c'est aussi... être solidaire les uns les autres.
Bien sûr, vous avez raison, mais néanmoins, on va dire que la solidarité, elle doit s'appliquer de manière ponctuelle et temporaire. Lorsqu'une personne, et ça peut arriver à tout le monde évidemment, arrive en difficulté, arrive dans une période de chômage, a un accident. Donc là, bien sûr, le problème, c'est qu'on crée en France des formes de situations sociales d'assistanat qui sont structurelles. Je pense notamment à la question de l'immigration et des personnes de nationalité étrangère dont le taux d'inemployabilité, pour ne prendre que cet exemple en France, est deux fois plus élevé que celui des Français. 46,2% de mémoire chez les personnes de nationalité algérienne qui sont résidentes sur le temps français, qui sont aujourd'hui en inactivité. Donc ça, c'est un exemple, si vous voulez, mais...
Qui sort d'où ce chiffre? Je ne l'ai pas, moi.
C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2020.
En inactivité.
46% des Français. 46,2% des personnes de nationalité algérienne.
De nationalité algérienne.
Exactement, qui sont résidentes sur le territoire.
D'accord.
Donc c'est vrai que, si vous voulez, on est là face à la démonstration, par exemple, d'une générosité française qui est portée, évidemment, à bout de bras par des Français qui travaillent et qui mériterait, pour le coup, qu'il y ait davantage d'attention qui soit portée sur ces Français qui travaillent, qui donc payent moins et moins à payer pour finalement soutenir des personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire, par exemple.
Dans le même temps, et ça ne nous aura pas échappé, dans la loi immigration qui va être portée par Gérald Darmanin, il y a l'idée d'obtenir des visas de séjour pour aller chercher des étrangers qui viennent travailler en France, parce qu'il y a de nombreux métiers en France qui ne sont pas pourvus, des jobs qui ne sont pas pourvus, et seuls les étrangers arrivés en France acceptent de
les
faire.
Seuls, non, parce que déjà, quand on regarde la proportion entre Français et étrangers dans ces métiers, on se rend compte qu'ils sont quand même très largement assurés, d'abord par des Français, même s'il y a une part significative d'étrangers. Ensuite, je ne crois pas que cet argument soit judicieux, parce que ça fait des années, si ce n'est même des décennies qu'on l'entend, qu'on importe sur notre sol des centaines de milliers, ce n'est même des millions de personnes, et pour autant, ces fameux métiers restent des métiers dits en tension, où il est difficile d'embaucher. Donc, je ne crois pas que
recourir... Vous avez déjà pris le métro très tôt le matin?
Oui, je prends le métro très tôt le matin.
Vous avez regardé un peu autour de vous?
Oui, je regarde autour
ceux
de
qui
moi.
Reviennent en général, dont on sent qu'ils ont le visage fatigué, de ceux qui ont travaillé et qui rentrent chez eux à 8h, 9h, 10h du matin, c'est la plupart du temps des gens qui sont d'origine étrangère et qui font les métiers les plus pénibles.
Il y a déjà, ça
vous le reconnaissez.
Déjà, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas des Français de nationalité.
Tout à fait.
On est d'accord.
Un moment, ils sont arrivés et ils assurent.
J'en conclus que vous dites que du coup, donc ce sont les personnes d'origine immigrée qui assurent la majorité des métiers pénibles. Mais je ne crois. Déjà, la France ne se résume pas au métro parisien. Vous le savez aussi.
Évidemment, il se trouve que c'est celui que je prends.
Qui se lève tôt. Néanmoins, une fois de plus, ce que je vous dites là. Le fait qu'il y ait une partie de personnes d'origine immigrée ou étrangère qui assurent des métiers difficiles, c'est un fait, mais ils ne sont pas les seuls. Et une fois de plus, ce sont une majorité de Français qui, la plupart du temps, s'y collent également. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, une fois de plus, est-ce que, alors même que notre situation, au regard des chiffres que je viens de vous donner sur l'inemployabilité, l'inactivité plutôt, des personnes de nationalité étrangère sur notre pays, est-ce qu'il est judicieux d'apporter encore une nouvelle manne d'immigration légale et de travail qui ne vient pas, une fois de plus, se substituer aux autres filières d'immigration, mais s'ajouter. Voilà, on est déjà un pays qui n'arrive plus à supporter socialement et à porter socialement cette immigration. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne réponse. Moi, je pense que la bonne réponse, elle passe par le fait de rendre du pouvoir d'achat aux Français à travers les salaires et notamment baisser les charges sur ces salaires et donc permettre aux employeurs de pouvoir donner des salaires qui équivalent finalement à la pénibilité de cet emploi. Et donc, pour cela, se pencher sur la baisse de ces charges et donc en parallèle faire les économies qui s'imposent.
Mais si on reste sur cette question de la gestion de l'immigration et de la loi de Gérald Darmanin, il y a deux pendants. Il y a d'un côté la promesse de davantage de fermeté dans l'application notamment des OQTF, donc de l'immigration qui n'est pas souhaitée, et de l'autre, en revanche, en effet, le fait d'accueillir davantage ceux qui viennent travailler. Est-ce que ça, c'est pas l'équilibre qu'il faudrait tenter de trouver ?
Non, je ne crois pas, une fois plus, parce que je pense qu'aujourd'hui, recourir à l'immigration est une mauvaise solution. Déjà parce qu'une fois de plus, elle tire les salaires à la baisse, parce qu'elle aggrave le coût de notre état social mécaniquement, parce qu'elle pose des problèmes d'assimilation, qui est aujourd'hui une assimilation qui est parfaitement enrayée du fait du nombre de personnes étrangères qui arrivent sur le territoire et qui ne permettent plus de créer de bonnes conditions d'assimilation. Et que par ailleurs, c'est une fois de plus un nouvel appel d'air à l'immigration. On en a déjà eu un récemment avec l'Océan Viking qui va poser un certain nombre de difficultés, et je crois que au regard de la situation une
vous
fois
auriez
plus,
fait quoi vous pour l'Océan Viking
social. Ah bah, tout simplement, nous aurions fait en sorte que le droit maritime s'applique, puisque en l'occurrence SOS Méditerranée en permanence nous parle du droit maritime. Le droit maritime, il impose de porter secours à un bateau qui est en difficulté.
Donc,
donc éventuellement, bien sûr, s'il y a des personnes, s'il y a un risque de naufrage, par exemple, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, mais là, on doit porter secours. Il aurait été possible parfaitement d'amarrer des médecins sur le bateau et donc de porter secours sur le plan médical. En revanche, faut quand même se rendre compte que ce bateau est passé non seulement près des côtes libyennes, mais aussi près des côtes tunisiennes, près du deuxième port d'ailleurs de Tunisie, où se trouve le Haut Commissariat des Réfugiés des Nations Unies, où il y a même des bureaux qui sont aujourd'hui dédiés à l'étude des demandes d'asile. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le droit maritime impose de porter secours, mais en aucune manière ne nous imposait de faire accoster ces personnes sur les côtes européennes. C'est ça la chose. Et le droit nous imposait de les ramener vers les portions les plus proches.
Tout dépend du moment où la détresse est constatée. Si la détresse arrive, alors moi je voudrais quand même vous reposer la question, si la détresse arrive au large des côtes européennes, est-ce que vous accueillez les personnes qui sont sur ce bateau ?
Cette détresse au large des côtes européennes, lorsqu'elle advient, est organisée par les
vous voulez dire qu'ils attendent les d'être fameux dans les eaux territoriales
exactement,
européennes.
Et c'est d'ailleurs
pour décréter.
Il y a différents rapports de Frontex, il y a différents rapports également de la police italienne qui confirme cette collusion à laquelle nous assistons, qui n'est pas une collusion financière, qui est une collusion d'organisation, qui font que d'ailleurs les passeurs libyens arrivent à convaincre ces personne de traverser parce que il leur annonce que il y a des bateaux d'associations européennes qui viendront les chercher à partir d'un certain moment.
Donc
dans
vous
les eaux et
de complicité.
Oui, de complicité tout à fait, parce que l'objectif une fois de plus ça n'est pas seulement de
les ONG sont en quelque sorte des complices des passeurs, voire même des passeurs eux-mêmes.
Oui, c'est des complices des passeurs indéniablement, et d'ailleurs l'objectif, et on le voit bien à travers l'exemple que je viens de vous donner, c'est pas seulement de sauver des personnes, c'est bien de les ramener vers les côtes européennes, parce que si l'objectif était de sauver ces personnes, une fois de plus les ports les plus proches et les ports les plus sûrs n'étaient n'était pas Toulon, n'était pas l'Italie quand on parle des côtes libyennes, mais était notamment par exemple la Tunisie. Donc je crois que la seule réponse à avoir, c'est une réponse de fermeté pour bloquer les tentatives à venir. Et je remets en perspective, parce qu'on parle beaucoup de l'Océan Viking et de 234 migrants d'ailleurs, dont 230 se sont envolés dans la nature.
Pas 230, mais une grande partie, oui.
Une immense partie d'ailleurs, ce qui est vraiment la démonstration du fiasco emblématique de l'impuissance de l'État à réguler l'immigration, hein, donc ça devrait nous interpeller. Mais moi, ce que je mets ces 234 en parallèle des 280 000 qui ont tenté l'entrée aujourd'hui aux portes, enfin cette année aux portes de l'Europe, d'après les chiffres de Frontex, qui est
inédit
depuis la crise migratoire.
Il n'y a pas eu depuis très
2016.
Longtemps autant voilà. De migrants
c'est
qui tentent de rejoindre l'Europe.
C'est plus 77% en un an. Je mets ça en parallèle des chiffres qui nous ont tous fait beaucoup parler ces derniers jours, à savoir le fait que l'humanité est passée à 8 milliards d'individus, 1 milliard en Afrique, 2 milliards en 2050. L'Europe aujourd'hui, enfin l'Union Européenne, c'est 500 millions d'habitants. Donc il faut quand même mesurer que quand on a aujourd'hui 50% des 18-25 ans qui veulent émigrer vers l'Europe et qu'on voit ces chiffres en parallèle, il faut comprendre qu'à travers l'Océan Viking et la faiblesse face à l'Océan Viking, c'est le risque d'une submersion, je vois pas d'autre mot, et donc d'une submersion mécanique, démographique, numérique tout simplement, que nous mettons en place si nous ne faisons pas preuve de fermeté. Or je crois que l'Europe n'a pas vocation à devenir
preuve de fermeté,
une deuxième Afrique.
Vous-même vous donnez les chiffres, c'est l'humanité, c'est-à-dire que c'est l'humanité, c'est la réalité de l'humanité. Est-ce que vous pensez franchement que c'est en renvoyant les quelques bateaux qui vont venir que vous allez rééquilibrer les questions de monde, de tectonique des plaques et de continents?
Enfin, je veux dire, ce qui est certain, déjà, c'est quand même le rôle de la politique de ne pas se contenter d'être passif face à une donnée géopolitique, démographique réelle. On voit qu'il y a des pays qui font preuve de fermeté. Je pense notamment à l'Australie, qui pourrait
considérer que
être un pays
peuple français est en danger,
qui a un appel d'air.
Vous considérez que le peuple français est en danger?
Là-dessus, je vous réponds juste après sur votre question. Mais regardez l'Australie, par exemple, qui est un pays dit occidental, donc qui pourrait aussi être un pays évidemment qui suscite des convoitises et qui a une politique d'immigration extrêmement ferme, qui fait même des campagnes.
La réalité géographique de l'Australie vous aura pas échappé, c'est pas tout à fait le même système.
Mais il n'y a pas que, d'ailleurs, on le voit bien quand on voit l'immigration arriver en Europe, il y a des pays qui sont quand même plus attrayant que d'autres, et la France en fait partie pour des raisons liées d'ailleurs à sa générosité.
Enfin, beaucoup ont envie de traverser la France,
sa générosité sociale, et pas que. Et vous avez raison. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, la France est en danger. Et je vais vous donner un exemple tout bête. D'ailleurs, elle est déjà, d'ailleurs, elle vit ce danger. Vous avez entendu parler de ce qui se passe à Mayotte. J'imagine à Mayotte, donc c'est un département français. C'est la guerre civile. C'est la guerre civile, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une île très pauvre. Avec des Français mahorais qui sont sur cette île pour moitié en cohabitation avec des personnes étrangères, principalement des Comoriens. Et nous avons aujourd'hui une délinquance qui fait que à peu près 80% des personnes qui sont déférées devant le tribunal de Mayotte sont des clandestins. Et nous avons pour conséquence, une insécurité endémique, des guerres de gangs, des meurtres, des personnes qui sont attaquées à la machette. Et c'est ça, c'est la réalité de Mayotte
c'est
aujourd'hui.
C'est tout à fait la réalité de Mayotte. Et j'en ai parlé souvent à ce micro.
Aujourd'hui,
mais avec une question aussi, pour le coup, qui est à la fois géographique et politique, qui est que Mayotte étant un département français, les aides sont les mêmes aides, avec pas forcément les mêmes niveaux, mais les mêmes aides qu'en métropole. Et en effet,
et
les îles qui sont autour. Donc il y a deux solutions, en fait.
Il y a deux solutions.
La Mayotte,
Marion Maréchal, il y a deux solutions. De ce qui
soit vous considérez, qu'on arrête les aides à ceux qui sont à Mayotte, mais enfin, c'est un département français et ils y ont donc parfaitement droit. Soit vous élargissez à ceux qui se sentent totalement exclus de ça et qui sont à 2 heures de bateau
eux vivent dans une misère. Je crois à la priorité nationale. Je crois à la priorité nationale.
Et donc,
nationale.
Vous faites quoi? Vous renvoyez des bateaux?
Je considère que les Mahorais qui sont français ont le droit de bénéficier prioritairement, si ce n'est exclusivement, de certaines aides portées par la solidarité nationale quand des
mais
personnes de nationalité étrangère.
Est-ce qu'il n'est pas utopique d'imaginer que vous allez renvoyer cette misère qui est aux portes de Mayotte?
Je ne le crois pas pour une raison simple, c'est que si les personnes qui accostent à Mayotte savent et vivent le fait qu'elles ne bénéficieront pas d'aide, c'est-à-dire qu'elles ne toucheront pas d'aide sociale, qu'elles
vous
ne bénéficieront pas du droit du sol, qu'elles n'auront pas de regroupement familial, elles ne tenteront pas la traversée et ne viendront pas puisqu'elles n'y auront pas intérêt tout simplement. Et moi, une fois de plus, mon rôle en tant que responsable politique française, c'est d'abord de me soucier de la sécurité et de la prospérité des Français et de la France, donc prioritairement des Mahorais et à l'échelle évidemment de la France dans l'Hexagone.
Marion Maréchal, je voudrais que vous regardiez cette une du Figaro Magazine ce week-end, le Figaro Magazine qui se pose la question de qui pour sauver la droite. D'abord, il n'y a que des hommes. Vous n'y êtes pas. Vous auriez aimé y être.
C'est logique. Vous auriez là, en plus, ce sont soit des chefs de parti, soit des présidentiables. Donc, c'est logique. Mais il y aurait pu y avoir vous, il y aurait pu y avoir votre tante. Non.
Oui, il y aurait pu. Bah, à ceci près, que je crois que c'est la droite et que, comme j'imagine que, comme Marine Le Pen refuse cette appellation,
bah, y a Éric
droite,
Zemmour.
Ils l'ont, Éric Zemmour dedans. Ils l'ont pas mise. C'est pour ça. J'imagine,
et est-ce que vous sentez une proximité avec tous ceux qui font cette une avec un Retailleau, un Ciotti, un
Ah bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de convergence sur le plan programmatique entre ces différentes droites, pas sur tous les sujets, mais notamment sur les questions civilisationnelles, identitaires. On voit bien qu'aujourd'hui, le discours, par exemple, d'un Bruno Retailleau ou d'un Éric Ciotti pourrait être assez proche, en tout cas dans les.
Édouard Philippe sur cette une, ça pour le coup.
Édouard Philippe, je mettrais ça de façon un peu différente, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, cette convergence, cette prise de conscience de l'ensemble du spectre de la droite sur cette, on va dire, cette angoisse identitaire, elle devrait être un argument supplémentaire pour travailler à cette fameuse alliance des droites.
Vous voyez un peu Jordan Bardella, vous parlez aussi avec lui, parce que j'imagine que l'alliance des droites sans cette partie-là, la partie RN.
Évidemment qu'il ne peut pas y avoir d'alliance des droites efficace pour vaincre la gauche ou le centre-gauche si le RN n'y est pas associé. Maintenant, c'est tout notre travail à Reconquête. Parmi notre travail de défendre cette stratégie et
est-ce
d'expliquer
que vous faites amende honorable là-dessus, est-ce que vous dites voilà on s'est éloigné, on s'est trompé,
amende honorable en l'occurrence depuis le premier tour des élections présidentielles, il y a quand même eu un appel au vote pour Marine Le Pen au second tour, systématiquement il y a eu une volonté d'ouverture et puis la tentative maintenant d'expliquer aux uns et aux autres qu'après trois présidentielles perdues face à la gauche, nous ne pouvons pas réitérer cette erreur, que 89 députés à l'Assemblée, c'est évidemment tout à fait admirable, mais il en faut 289 pour avoir une majorité.
Et pas vous, mais donc vous étiez, vous y étiez pour la précédente législature. Votre modèle, c'est une Giorgia Meloni.
Bah, c'est un des modèles, en effet, qui pourrait être pris, qui ne date pas d'ailleurs de Giorgia Meloni, puisqu'en Italie, ça fait longtemps que l'alliance des droites est mise en œuvre au niveau local ou au niveau national. Mais c'est évidemment un des modèles pour pouvoir faire 50 plus 1. C'est pas, si vous voulez, moi, l'union des droites, c'est pas un hobby et une obsession. C'est simplement un chemin qui m'apparaît pertinent, parce qu'aucun parti politique n'a la capacité, on peut le déplorer, c'est comme ça, mais à embrasser toutes les sociologies, toutes les générations et toutes les idées, j'ai envie de dire. Donc chacun a des complémentarités, des nuances. Donc l'idée, c'est de savoir comment, sur l'essentiel, on est capable de s'accorder en respectant ces nuances respectives.
Marion Maréchal, vice-présidente du parti Reconquête, vous tiendrez d'ailleurs meeting dimanche à Paris pour les 1 an de votre parti. Merci d'avoir répondu à mes questions.